Bonjour et bienvenue, 15h TU, 17h ici à Paris, le journal sur RFI.
Gilles Moreau.
Dans l'actualité, bilan très lourd en Ukraine où la ville de Soumy a été visée par des frappes russes, au moins 32 morts et une centaine de blessés. Les réactions indignées sont nombreuses, à commencer par celle du président Zelensky. Il appelle à faire pression sur la Russie pour arrêter la guerre. Dans la bande de Gaza, un hôpital, l'un des rares encore en fonction dans l'enclave, frappé par l'armée israélienne, les dégâts sont importants. Dans ce journal également, nouvel incident diplomatique entre la France et l'Algérie. Alger proteste vivement contre la détention en France d'un agent consulaire. Mais pour commencer ce journal, l'arrivée de la classique cycliste Paris-Roubaix, c'était il y a quelques minutes. Et Thomas de Saint-Léger, eh bien, le néerlandais Mathieu Van Der Poel conserve son titre.
Pour la deuxième fois consécutive, Gilles, ça fait donc trois Paris-Roubaix de suite pour Mathieu Van Der Poel, le spécialiste de cette course, l'homme qui danse sur les pavés. Mathieu Van Der Poel qui rejoint un club très fermé. Il n'était que deux jusque-là à avoir remporté trois fois consécutivement l'arène des classiques, l'enfer du Nord. Et quand je vous dis qu'il est l'homme des pavés, Mathieu Van Der Poel, il en a encore donné la plus belle illustration aujourd'hui, puisqu'il avait un adversaire de taille en la personne de Tadej Pogacar, le champion du monde, le vainqueur du Tour de France l'année dernière, Tadej Pogacar, qui a longtemps suivi le rythme de son rival néerlandais, mais qui, dans un virage à 30 km de l'arrivée sur un secteur pavé, est parti à la faute. Il est tombé, Pogacar remonté sur son vélo, mais c'était trop tard et il a franchi la ligne en deuxième position. Et il donne quand même rendez-vous pour l'avenir, Tadej Pogacar.
Merci, c'était Thomas de Saint-Léger pour la course Paris-Roubaix. Également dans l'actualité sportive de ce dimanche, victoire kényane chez les hommes à l'arrivée du marathon de Paris. Bernard Biwott l'emporte, alors que chez les coureuses, la plus rapide a été l'éthiopienne Bedetu Irpa. Et puis en tennis, Carlos Alcaraz remporte pour la première fois le tournoi de Monte-Carlo. Il a dominé en finale l'Italien Lorenzo Musetti. Avec cette victoire, l'Espagnol retrouve sa place de numéro 2 mondial.
RFI.
Bilan très lourd en Ukraine où un tir de missile russe a tué au moins 32 personnes et blessé près d'une centaine d'autres. C'était à Soumy, ville du nord-est de l'Ukraine. Cela s'est passé ce matin en plein centre-ville, en ce dimanche des rameaux, un jour où les gens vont à l'église. Cette attaque contre les civils, c'est la plus meurtrière en Ukraine depuis la reprise de contact en février entre Washington et Moscou. Correspondance à Kiev d'Emmanuel Chaz.
C'est le bilan le plus meurtrier des dernières semaines et une frappe particulièrement grave qui touche la ville de Soumy, car elle a eu lieu dans un endroit extrêmement fréquenté du centre-ville. Le quartier visé était véritablement le point de ralliement lorsqu'on se trouve au cœur historique de la ville. Il s'y trouve le centre des congrès, l'université, un centre de recherche qui ont été impactés par cette frappe qui est intervenue alors que beaucoup de gens se trouvaient simplement dans la rue. On y retrouve des étudiants, des habitants de la ville et aussi toute une partie de la population déplacée des villages frontaliers, car il ne faut pas oublier que Soumy est situé à seulement une trentaine de kilomètres de la ligne de front et de la frontière avec la Russie, et non seulement dans cette ville et dans la région, mais aussi dans le reste du pays. C'est le genre de frappe qui devient de plus en plus fréquente ces dernières semaines. Depuis les discussions de cessez-le-feu, il n'y a pas eu une seule journée en Ukraine sans frappe et sans mort de civils. Réaction très forte du côté du gouvernement. Volodymyr Zelensky a condamné cette énième frappe sur des civils. Il appelle une nouvelle fois la communauté internationale à réagir fermement. Il accuse la Russie de chercher à propager exactement ce genre de terreur sur des villes ordinaires, dit-il, afin de prolonger cette guerre d'agression contre l'Ukraine. Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
Réaction indignée aussi d'Emmanuel Macron. La Russie poursuit la guerre au mépris de tout, écrit le président français sur X. La Russie dépasse les limites de la décence, dénoncent de leur côté les États-Unis. La Pologne parle d'une frappe barbare. Et le premier ministre britannique Keir Starmer se dit consterné parmi d'autres réactions d'indignation encore. Les dégâts sont très importants dans la bande de Gaza, où un hôpital, l'un des rares encore en service, l'hôpital Al-Ali, a été frappé dans la nuit par des missiles israéliens. L'accueil et les urgences ont été détruits. Israël explique avoir visé des combattants du Hamas cachés dans l'établissement. Les responsables de cet hôpital ont été prévenus juste avant les frappes par téléphone. En Syrie, Israël continue ses opérations militaires contre des infrastructures considérées comme stratégiques. Parmi ses prises récentes, le mont Hermon, il abrite la principale ressource en eau de la province de Deraa. L'armée israélienne israélienne s'est aussi emparée d'une dizaine de barrages et de réservoirs. En temps normal, ces derniers irriguent les terres agricoles de la région, dont les légumes et le blé nourrissent en grande partie les Syriens. Reportage dans la vallée de Kowaya de notre correspondante en Syrie, Manon Chaplin.
Du bout des doigts, Ami défrit de la terre de ses champs arides. 7000 mètres carrés, des tomates, des courgettes qu'il ne peut plus arroser. Car au lendemain de la chute du régime, les forces israéliennes se sont emparées du réservoir d'à côté. Oum al-Azom, c'est son nom, alimente d'ordinaire en eau les barrages, les champs alentours.
Nous sommes désormais obligés de pomper l'eau nous-mêmes. Et l'essence, ça coûte cher. Mais nous n'abandonnerons pas. Ce sont nos terres, celles de nos familles depuis des générations.
Depuis la chute du régime, les incursions israéliennes dans la province de Deraa se sont multipliées. Elles visent les ressources en eau, les collines, les champs, terrorisent des centaines d'habitants. À Kowaya, le 24 mars, les chars israéliens ont mis seulement quelques minutes à encercler les collines. 7 personnes au total ont été tuées. Armad, lui, s'est fait arrêter.
Ils nous ont emmenés de l'autre côté de la frontière en nous bandant les yeux. Ils nous ont interrogés, demandé si on hébergeait des membres de Daesh, des milices iraniennes ou du Hezbollah. Mais nous, nous sommes de simples agriculteurs.
Face à un puits, pioche à la main, Iwan explique. Israël pomperait aussi les nappes phréatiques. Alors pour trouver de l'eau, il faut creuser la terre bien plus loin qu'avant. Encore 200 mètres de profondeur. Coût des travaux, $200,000.
Les agriculteurs sont déjà dans la misère. Nous demandons de l'aide. Ce village est vraiment très pauvre.
Selon le conseil local de Kowaya, une quinzaine de barrages seraient aujourd'hui inaccessibles dues aux différentes incursions israéliennes. Manon Chaplin, de retour de Kowaya, RFI.
La Maison-Blanche a réagi à la reprise des pourparlers sur le nucléaire iranien en saluant un pas en avant. Ces pourparlers d'hier à Oman, en présence de l'émissaire de Donald Trump, ont été selon elle très positives et constructives. De son côté, Téhéran a précisé que le dialogue reprendrait samedi prochain, 19 avril. Aux États-Unis, la tournée contre l'oligarchie bat son plein. On la doit en particulier au sénateur du Vermont, Bernie Sanders. Hier à Los Angeles, cette figure de l'aile gauche américaine est en meeting ce dimanche à Salt Lake City pour dénoncer l'importance de l'argent dans la politique américaine. L'attente se poursuit au Gabon où se tenait hier une élection présidentielle. Les résultats globaux provisoires doivent être rendus publics à Libreville par le ministre de l'Intérieur. On vote aussi en Équateur, second tour d'élection présidentielle ce dimanche entre le président sortant Daniel Noboa et son opposante de gauche Luisa González. Le résultat s'annonce serré dans un pays gangrené par la corruption et surtout par le narcotrafic. Et maintenant, cette nouvelle affaire qui ne va pas arranger les relations entre la France et l'Algérie, relations qui pourtant allaient un peu mieux depuis la visite à Alger du chef de la diplomatie française dimanche dernier. 3 hommes, dont un en poste dans un consulat d'Algérie en France, ont été mis en examen. C'était vendredi à Paris. Ils sont soupçonnés d'avoir enlevé puis séquestré un influenceur algérien, un opposant au régime de son pays. De quoi provoquer l'indignation d'Alger, Sarah Yasmine Ziani.
Une situation inadmissible qui causera un grand dommage aux relations algéro-françaises, a déclaré hier soir le ministère algérien des Affaires étrangères. Il dénonce l'arrestation de son agent consulaire sur la voie publique, sans notification par le canal diplomatique. Un tournant judiciaire qui n'est pas le fruit du hasard, estime-t-il, comme une manière de torpiller le réchauffement des relations entre Paris et Alger. Pour l'avocat de l'influenceur Amir Boukors, ces nouvelles arrestations suggèrent une tentative d'intimidation de l'Algérie. Une potentielle ingérence étrangère, a réagi le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, qui précise que le parquet national antiterroriste a été saisi sur l'affaire. Nouvelle escalade donc après la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental et après la condamnation de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal et qui intervient alors que Bruno Retailleau est attendu ce soir au Maroc.
Avec au moins 226 morts, le bilan de l'effondrement d'une discothèque en début de semaine à Saint-Domingue s'est encore alourdi. Les autorités précisent que tous les corps ont été rendus à leurs proches. Au Japon, l'exposition universelle a ouvert ses portes aujourd'hui à Osaka. Quelques 160 pays et régions sont représentés. Le Japon a placé ce rendez-vous sous le signe des technologies d'avenir, également de la concorde dans un monde fracturé. Enfin, il y a des anniversaires dont on aimerait se passer. Ce dimanche 13 avril marque les 50 ans du début de la guerre civile au Liban. C'était le 13 avril 1975. Les anciens chefs de milice se sont reconvertis en hommes politiques. Ils ont aussi voté une loi d'amnistie générale. Vous écoutez RFI bientôt 17h10 ici à Paris. Tout de suite en sol majeur avec Yasmine Chouaki.